Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se penche sur une date vraiment marquante, le 20 juillet 1960. À Ceylan, donc, l'actuel Sri Lanka, une femme sans aucune expérience politique préalable prend la tête du gouvernement.
La toute première au monde, hein, oui.
Exactement, Sirimavo Bandaranaike. Et bah, la mécanique derrière cette victoire est fascinante, parce qu'elle a obtenu une majorité écrasante de sièges tout en perdant le vote populaire.
C'est tout le paradoxe.
Voilà. Donc la question au cœur de notre analyse aujourd'hui, c'est de savoir si ce scrutin est le triomphe d'une dirigeante qui a affirmé la souveraineté de sa nation, ou bien le résultat d'une anomalie électorale qui a, disons, institutionnalisé des fractures ethniques majeures.
Tout à fait.
Moi, je suis convaincu qu'elle incarne une véritable émancipation. Un leadership fort face au mépris total de son époque.
Et de mon côté, ben, je suis convaincu que son pouvoir reposait d'emblée sur une distorsion démocratique assez grave, avec des politiques d'exclusion aux conséquences tragiques pour la suite.
Ouais. Alors, replongeons un peu dans cette atmosphère de 1960.
D'accord.
Elle vient de perdre son mari qui a été assassiné. Ses adversaires la sous-estiment complètement. On l'appelle même, de façon très condescendante, la ménagère qui pleure.
C'est terrible, cette image.
C'est fou, oui. Et elle n'avait même pas prononcé un seul discours de campagne avant ça.
Pas un seul.
Et pourtant, elle prend le parti en main, le SLFP. Elle accélère les nationalisations, les écoles, le pétrole. Elle impose le non-alignement. Enfin, elle fait vraiment de Ceylan une voix qui compte dans le tiers-monde.
Je comprends l'image de la pionnière, elle est forte. Mais il faut vraiment regarder les chiffres officiels de ce scrutin de juillet 1960.
Allez-y.
C'était d'ailleurs la deuxième élection en 4 mois, tellement le pays était ingouvernable. Le parti adverse, l'UNP, arrive en tête. Ils ont 37,2% des suffrages.
Mmh. Le vote populaire ?
Oui. Le SLFP de Bandaranaike ne récolte que 33,2% des voix. Et pourtant, avec moins de voix, elle rafle 75 des 151 sièges, contre seulement 30 pour l'UNP.
Alors justement, pour que nos auditeurs saisissent bien l'ampleur du phénomène, comment c'est mathématiquement possible de perdre le vote populaire de 4 points, mais de remporter plus du double des sièges ?
Mais c'est la mécanique implacable du scrutin uninominal, surtout quand elle est combinée à une ségrégation géographique très nette.
C'est-à-dire ?
Les votes de l'opposition étaient massifs, mais ils étaient entassés dans quelques grands centres urbains. Le parti de Bandaranaike, lui, n'avait pas besoin de la majorité absolue.
Ouais, il lui a suffi de cibler les campagnes.
Exactement. Elle a capté les voix réparties dans une multitude de petites circonscriptions rurales. Ça lui a permis de rafler les sièges un par un. Donc, son mandat repose sur une carte électorale, pas sur une adhésion majoritaire du peuple.
Mais attendez, capter ces circonscriptions rurales, c'est pas un défaut du système. Ça prouve justement qu'elle avait compris où battait le cœur du pays. Un cœur souvent complètement ignoré par les élites urbaines de l'UNP.
C'est une façon de voir les choses, oui.
Et elle a utilisé ce soutien pour construire un véritable État indépendant. Ce qui culmine en 1972 avec la transformation du Dominion en République souveraine.
Oui, mais elle a construit cet État pour une seule partie de la population. Ce socle rural, il reposait en grande partie sur le Singala Only Act.
La fameuse loi linguistique.
Voilà. En imposant le singalais comme l'unique langue officielle, elle n'a pas juste froissé des sensibilités. Elle a littéralement, instantanément, bloqué l'accès de la minorité tamoule aux emplois publics.
C'est vrai que c'était très brutal.
Aux universités aussi, et même aux services gouvernementaux de base.
Mais il fallait bien, dans ce contexte post-colonial, trouver un moyen de forger une identité nationale commune, de s'éloigner de l'anglais, non ?
Sauf que ce choix a totalement marginalisé les Tamouls du Nord et de l'Est. Cette exclusion économique et administrative, elle a posé directement les jalons d'une guerre civile qui a duré 26 ans.
C'est certain.
On ne peut pas, je suis désolé, on ne peut pas parler de succès politique quand le prix à payer, c'est la destruction de la paix civile.
Les conséquences à long terme ont été tragiques, je le reconnais volontiers. Mais si on regarde la pérennité de son pouvoir, elle a quand même dirigé le gouvernement à 3 reprises sur 4 décennies.
Oui, c'est long.
Et en 1994, sa fille Chandrika est élue présidente et elle nomme sa propre mère première ministre. Une telle longévité, ça prouve bien que son leadership a durablement résonné auprès des citoyens, non ?
Ou alors, ça démontre la dérive d'une république vers une oligarchie familiale, tout simplement.
Ah, oligarchie, le mot est fort.
Mais c'est la réalité des faits. Quand les plus hautes fonctions se concentrent dans les mains d'une seule lignée pendant un demi-siècle, c'est plus la preuve d'un leadership institutionnel sain. C'est une mainmise dynastique sur les rouages de l'État.
Bon, nous convergeons au moins sur une certitude aujourd'hui. Sirimavo Bandaranaike a brisé le plus grand plafond de verre politique au monde.
Ça, c'est totalement indéniable.
Elle a prouvé qu'une femme pouvait exercer un pouvoir, disons, implacable,
en refaussonnant les institutions de son pays.
Absolument. Elle a fait voler en éclats les attentes de l'époque. Mais notre discussion montre bien qu'il est indispensable d'analyser comment ce pouvoir a été acquis et à quel prix, surtout au niveau des fractures sociétales.
Une pionnière mondiale de la souveraineté ou l'architecte d'une division tragique ? La réalité abrite souvent ces deux vérités en même temps.
Tout à fait. Il y a encore beaucoup à explorer sur ce sujet.
C'est donc à vous, chers auditeurs, de continuer à analyser cette élection fascinante et d'en tirer vos propres conclusions. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.